Philippe Pelaez, Gontran Toussaint, bonjour. Je suis très heureux de vous rencontrer dans le cadre du BD Comic Strip Festival pour présenter Intelligence, Espionner, Manipuler, Trahir, paru aux éditions d'Argo. Alors Philippe, vous avez coécrit cette histoire avec Hugo de Bénéa, qui sait quoi il parle, puisque c'est un ancien espion de la DGSI, Direction Générale de la Sécurité Intérieure, qu'on appelait chez nous Sûreté de l'État. Parlez-nous un petit peu de votre rencontre avec Hugo, et finalement, est-ce que vous avez établi une sorte de modus operandi pour établir ce scénario?
Alors, vous parlez de la rencontre avec Hugo, ce serait assez difficile parce qu'il n'y a pas eu de rencontre. Van, nous ne l'avons jamais vu. C'est Hugo qui a proposé, donc c'est un pseudonyme, hein, c'est pas son vrai nom, qui a proposé une sorte de déroulé assez long, hein, quand même, à Dargo. Et c'est Yves Stier, donc, de Dargo Benelux, qui m'a demandé si à partir de ce déroulé, je pouvais faire adapter ça en bande dessinée. Et c'est vrai que j'ai trouvé ça extrêmement intéressant, très géopolitiquement très prégnant, hein, par rapport à la situation actuelle. Et donc voilà, j'ai accepté, mais je n'ai jamais rencontré Hugo. Voilà, on a échangé par mail souvent, évidemment, au fur et à mesure de l'avancée de la bande dessinée, de la création de la BD. Mais c'est vrai que physiquement, il n'y a jamais eu de rencontre.
Alors, vu le vécu d'Hugo, je suppose que normalement, il a une multitude d'histoires qu'il pourrait raconter. Pourquoi a-t-il choisi celle-là? A-t-il choisi celle-là plutôt qu'une autre?
Alors, ça, s'il y a des questions qu'à nous, on ne peut pas répondre. Voilà.
Parce qu'il y a des choses que... transmis.
Non, mais bon, si vous voulez, le point de départ, c'est en 2019, donc la Syrie qui a offert à l'Iran la gestion du port de Latakia. Et l'Iran, c'était un peu la chasse gardée des Russes. Parce qu'il y a trois ports en Syrie qui appartenaient tous les trois aux Russes, base aérienne, base navale. Et en fait, les Russes l'ont très mal pris, puisqu'ils considéraient justement la Syrie un peu comme leur territoire. Et d'ailleurs, depuis le renversement de Bachar el-Assad en février 2025, la Russie a perdu toute son influence en Syrie. Et donc, c'est aussi pour ça qu'en 2021, l'armée israélienne a bombardé le port de Latakia, soupçonnant le port d'être une plaque tournante pour le trafic d'armes en direction de la Libye, du Hamas, etc. Voilà, donc c'est il y a quand même, je lis le contexte, je pense que c'est quelque chose qui lui tenait à cœur. Je pense qu'il a travaillé, oui, sur... Parce qu'en fait, la cellule, il y a plusieurs cellules au sein de la DGSI, et là, notre cellule, c'est la cellule contre-espionnage iranien. Il y a aussi le contre-espionnage syrien, enfin, il y a énormément de cellules au sein de la DGSI, et je pense que Hugo a travaillé sûrement dans la cellule contre-espionnage iranien.
Gontran et oui, Philippe, vous êtes passionné de géopolitique en général ou c'est le
moi pas occasion qui fait de l'art? Non, pas spécialement. Moi, c'est ce que je dis toujours quand on s'est rencontré, Philippe, j'ai pu lire évidemment le scénario avant de participer au projet et avant toute considération justement géopolitique, moi j'ai vu un récit d'espionnage ultra réaliste qui sortait, je trouve, de ce qu'on a l'habitude de lire de par son réalisme et enfin, poussé au maximum, et c'est ce qu'on disait. On a eu l'expérience d'Hugo qui a travaillé là-dedans, et dans les moindres petits détails, ça se ressent, que ce soit des tournures de phrases, des petits détails, on sent ce vécu. Et ça a apporté énormément au récit.
Ah. Techniquement, on pense que c'est vraiment la BD la plus honnête, enfin la plus réaliste,
la plus preuve,
voilà, la plus proche de la réalité. Ouais. C'est pour ça que c'est quelque chose de très statique, puisqu'en fait il y a très peu d'action dans la BD. C'est quand même un jeu de dupes, hein, mais qui justement, la principale difficulté, c'était de compresser le temps, parce que le temps du renseignement ne correspond pas forcément aux critères des lecteurs de BD. Ça s'étale sur plusieurs mois, plusieurs années. Évidemment, dans la BD, il a fallu resserrer tout ça, faire quelques ellipses. Pour évidemment tenir en haleine le lecteur. C'était ça la principale difficulté.
Parce que c'est vrai que finalement, on a l'impression d'une routine de quotidien où il ne se passe pas vraiment grand-chose, en tout cas en apparence. Et puis finalement, il y a une tension qui s'installe. Je suppose que dans le dessin, c'était aussi facile à faire transposer ça.
Moi, quand j'avais lu le scénario et je l'avais dit à Philippe, c'était le même sentiment que je partageais. J'avais senti une tension qui montait jusqu'à la dernière page. Et ça ne faisait que monter, mais progressivement, comme je pense est le renseignement. Et dans le dessin, c'est pareil, je voulais une espèce de dessin très, très froid, très sec, un peu presque cru, qui reflète ce côté froid, en fait, de l'histoire où il y a très peu d'émotions. C'est un milieu dans lequel il n'y a pas beaucoup d'émotions, il ne faut pas en avoir. Donc j'ai essayé de retranscrire ça également dans le dessin.
Vous savez qu'il n'y a pas beaucoup d'état d'âme, hein. L'humain, il n'apparaît pas beaucoup. Peut-être éventuellement la relation amoureuse ou l'enfant à l'hôpital, mais sinon, c'est quand même assez froid. Non ?
Et encore, la relation amoureuse, c'est quelque chose qui n'est absolument pas... C'est une relation hypocrite, ça. C'est un jeu. Justement, c'est ce que nous expliquait Hugo, puisque il a été officier traitant, c'est-à-dire un officier traitant, c'est lui qui traite des sources. Alors les sources, c'est des sources humaines, évidemment. C'est-à-dire essayer de, généralement, de séduire des personnes parce qu'elles vont leur être utiles dans l'optique de mener une certaine mission à bien et dans l'histoire.
C'est lui finalement alors.
Oui, alors je pense qu'il y a une partie de lui. Au départ, il séduit donc comme ils veulent accéder donc à l'ordinateur de cet espion iranien qui se rend régulièrement à Paris au chevet de son enfant malade à l'hôpital Necker. Donc il séduit une infirmière de cet hôpital. Voilà, et c'est quelque chose qui normalement, il nous dit, ça prend des mois voire des années pour vraiment rentrer dans l'intimité de quelqu'un. Là, c'est en quelques pages quoi. Voilà, mais c'est une relation hypocrite, il y a même pas de relation amoureuse. Bon, il y a une autre relation amoureuse, mais ça, on ne peut pas trop en parler, enfin trop révéler l'intrigue. Mais c'est vrai que c'est un jeu de dupes, c'est vraiment le mot, l'expression qui convient.
Et finalement, on se rend compte que les politiques essaient de se garder les mains propres et que les services secrets, finalement, c'est le bras droit du diable, non ?
Oui, c'est ceux qui sortent de la poubelle.
Il fallait convaincu là.
Ah, si, c'est ceux qui sortent de la poubelle. Oui, c'est ça. C'est en fait. Et je pense, j'ai senti. Je sais pas si t'as ressenti ça aussi de la part d'Hugo quand on échangeait. Un manque de reconnaissance. C'est-à-dire, ce sont des gens qui agissent dans l'ombre.
Oui,
complètement. Et en fait, ils peuvent même pas parler de ce qu'ils font quand ils rentrent chez eux. Ça les reste totalement interdit,
retenus. Voilà.
Donc, ce sont des policiers. Ils ont suivi une formation de policiers. Après, ils basculent, ils intègrent leur enseignement. En fait, ils ne peuvent partager ça avec personne, sauf avec leurs collègues. Donc, ils rentrent chez eux, peuvent pas dire sur ceux qu'ils enquêtent en ce moment ou sur ceux qu'ils sont en train de mener comme mission. Et donc, il y a une certaine frustration que moi j'ai ressentie dans nos échanges avec.
Il l'intègre un tout petit peu dans son vessie.
Ouais, il l'intègre à la fin.
Oui.
À la fin, justement, il y a un petit speech de Victor, le chef de la cellule, qui dit voilà, on est vraiment, vous voyez. Ah, on vit dans l'ombre, pas. On travaille dans l'ombre.
Mais il y a un conflit finalement de police, hein. Il y a des litiges avec différents services.
Alors pas au sein de la DGSI, ensuite il pourrait y avoir des litiges des fois avec la DGSE, mais d'après ce que j'ai compris, donc il y a un peu plus d'entente maintenant, surtout ils ne dépendent pas du même ministère. La DGSI c'est le ministère de l'Intérieur, la DGSE c'est le ministère des Armées, et donc déjà c'est pas la même hiérarchie, mais apparemment si ça se passe plutôt bien.
Je pense qu'il y a des croisements de dossiers, je vois laquelle la finalité doit être positive, donc...
Puisque là, en fait, l'espion iranien, bien en France, c'est la DGSI qui s'en charge, mais à côté de ça, ils sont aussi obligés d'obtenir des renseignements, ou de demander des renseignements à la DGSE, qui, elle, travaille aussi avec le Mossad, les services secrets israéliens, ou avec le SVR, les services secrets russes, par exemple.
Par contre, Mossad, c'est vrai qu'on a l'impression que la réalité dépasse parfois la fiction. Je pense à Rainbow Warrior de 80, enfin... oui, 85, que l'explosion des beepers, des mondes de l'USB-Lab.
Avec les feux au quoi, c'est les faux des peu au tirage, ouais.
Énorme.
Le tirage, et puis le.
Vous auriez écrit ça avant, on n'aurait pas cru quand même, non, ouais.
Ah, ben là, c'est presque. Dans le cas du Rainbow Warrior, c'est presque une comédie, quoi.
Ouais.
C'est même pas un truc d'espionnage. Genre, comment ils se sont fait attraper, comment ils se sont fait. C'est vraiment hallucinant. Puis les erreurs qui ont été commises, c'était carrément grotesque, quoi. Bon, je me rappelle, j'avais 15 ans, j'étais jeune, en 85, mais je me rappelle vraiment, c'était un scandale, mais international, qui a vraiment écorné l'image de la France.
Alors, le grand public est toujours passionné par ces histoires d'espions, cinéma, Bond, OSS 117, je parlais tout à l'heure de Bad, le film de Frédéric Schoendorfer, il y a les séries télé comme Bureau des légendes, Service de la France, la littérature, n'en parlons pas. Comment expliquez-vous cette fascination de Gulli pour les espions, l'espionnage?
Parce qu'en fait, moi je pense que les espions, en fait, les gens ne savent pas qui sont vraiment des espions.
Oui.
Alors on a l'image de James Bond, et il manque, il y a le fantasme, il y a le fantasme, bien sûr, il y a le fantasme du secret, le fantasme de tout ce qui est secret, hein, c'est.
Oui, je pense que comme c'est un milieu effectivement qui est très secret, qui est pas connu en fait, ben ça fascine naturellement les gens.
Ou c'est. Quand on parle espion, on imagine gadget, mytho réalité. C'est peut-être vous au niveau des dessins, peut-être aussi, non, vous n'étiez pas
tombé de, je dirais, l'unique. Je pense par contre qu'ils ont accès à des moyens technologiques, mais ce sont pas des gadgets. C'est pas la montre grappin de je vends la fuvée de la Aston Martin. Non, mais par contre, je pense qu'ils ont, là, on le voit dans le cas de l'ordinateur, ils ont les moyens humains et techniques qui, pour le grand public, fait penser à des gadgets parce que c'est de l'électronique,
Je pense que les agents du contre-espionnage ou de l'espionnage sont des experts en psychologie. Ça, je le suis persuadé. Et puis, ils ont des formations très, très pointues. Bon, de formation aussi de combat, le maniement d'armes, etc. Mais ensuite, c'est vrai que dans le sous-sol de la DGSI, enfin, des bâtiments de la DGSI, il y a vraiment les geeks. Donc, et eux sont vraiment, vraiment des gens qui sont extrêmement capables de, qui peuvent en une minute hacker un ordinateur, placer des mouchards. Enfin, ce sont vraiment des gens qui sont extrêmement, intelligents dans le sens où, capables en tout cas dans leur métier. Voilà. C'est ressemblant des as.
Je parlais avec Gontran de la censure. Il n'y a pas eu de censure au niveau de l'écriture proprement dite
Par rapport à ce qu'il avait écrit, je crois, au tout d'état.
Ouais, s'il avait fait si ça avait été un roman, en fait, il aurait été obligé de le montrer au ministère et au patron de GSI. Et là, en fait, il s'est auto-censuré. C'est-à-dire qu'il a décidé de laisser des choses, d'autres choses, de les enlever parce que ça pouvait être des données sensibles. Et il faut savoir qu'au départ, Hugo ne voulait même pas que son nom apparaisse. Il voulait juste Johnny Pepelaes et Gontran, tout ça. Et moi, j'avais dit, c'est hors de question parce que ça va me retomber dessus. On va dire, mais comment vous savez de quelle manière on torture psychologiquement un espion, un supposé espion? Comment on peut hacker un ordinateur? D'où Pelaes sait peut connaître ces informations. Donc, je dis, hors de question, il faut que
j'aurais été invité j'aurais été invité à la DGSI, je me serais retrouvé dans la banlieue parisienne, dans un château la nuit, à me faire torturer. Non.
Est-ce qu'on est espion ou est-ce qu'on devient? Et question subsidiaire, est-ce qu'on devient agent double?
Est-ce qu'on devient, agent double?
Je pense pas qu'on est espion. Je pense pas que ça, je pense qu'on le devient,
Je suis pas sûr que ce soit une vocation. Je pense qu'on a la vocation d'être policier, d'être gendarme, d'être militaire, je sais pas. Je parle pour les forces armées, mais je pense pas que, je pense que c'est avec l'expérience qu'on a envie d'être espion. Je pense pas qu'en tout petit,
Je pense en plus, à moins que je me trompe, qu'il n'y reste pas, des années à poste, il semble.
C'est parce que c'est physique ou psychologique,
je pense. Ça fait ça. Notamment, je pense que c'est plus l'aspect psychologique, et c'est la question dont on parlait tout à l'heure, où, tous les jours, revenir avec des informations qu'on ne peut pas partager, sa journée n'a pas de vie, finalement. Il n'y a pas de vie. Et puis, ce qu'on voit au quotidien, je pense que, soit DGSI, DGSE, il y a des choses qui, avec le temps, à mon avis, sont difficiles à supporter.
Ça peut être très, très pesant, et notamment quand on est en côté. Oui, quand on est en couple, ça peut être extrêmement pesant. Ce qu'il nous disait,
fin ouverte, du moins c'est comme ça que j'ai ressenti, et finalement tu me disais que c'était plus un one shot, ça veut dire que on verra pas la fin, la suite, les nouvelles aventures ?
C'est ce qu'on disait en fait, ça dépend du lectorat, s'il avait des marches et que l'éditeur est satisfait, il verra sûrement une suite, mais pour l'instant c'est vrai qu'on a pensé ça comme un one shot, mais on s'est dit en laissant la fin ouverte, c'est-à-dire que voilà, l'histoire se suffit à elle-même, mais on peut après continuer.
Porte ouverte comme à la fin, hein.
Oui, un peu ouvert, c'est vrai ça. Mais bon, après c'est aussi un choix éditorial, hein. On n'est pas maître de tout, quoi. Voilà, mais donc on en saura plus dans quelques mois, quoi.
Pour terminer, donc, les agents ont quand même des règles qu'on leur impose, des limites, alors que de l'autre côté, les terroristes n'ont pas de limites. Est-ce qu'Hugo vous a parlé de ses frustrations
Alors, il nous a dit on peut pas forcément en parler. Mmh. Voilà. Il y a des choses qu'on peut pas dire, enfin, voilà.
Philippe Gontran, un grand merci. Et donc, on rappelle l'intelligence, espionner, manipuler, trahir, aux éditions d'Argo. Ici,
merci beaucoup. Et, Nathalie?
Ouais, après, il y a les trucs qu'on copie.